Vous écoutez On lit pour vous.
Pour que vieillir soit gai, soutenu dans le plan d'action du gouvernement du Québec. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 20 février 2025 dans le magazine Fugue. Dans le cadre du troisième plan d'action issu de la politique gouvernementale « Vieillir et vivre ensemble », chez soi, dans sa communauté, au Québec, la Fondation Émergence recevra une subvention de 1,5 million de dollars pour soutenir son programme « Pour que vieillir soit gai ». Dans un contexte où les communautés LGBTQ+, font face à des défis grandissants, on ne peut que se réjouir de l'annonce du gouvernement du Québec. Ce troisième plan d'action de la politique gouvernementale « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté au Québec » est plus ambitieux, innovant et inclusif que jamais et démontre une approche plus vaste, concertée, coordonnée et renouvelée pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population. Il vise à soutenir la réalisation de 102 actions portées par 34 ministères et organismes gouvernementaux partenaires qui sont inscrites dans 12 axes d'intervention sur lesquels il est nécessaire d'agir pour concrétiser le vieillissement actif et améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Le soutien au développement, au transfert et à l'utilisation des connaissances, de la recherche et des innovations sociales est aussi prévu. L'amélioration du niveau de vie, des modes de vie et des milieux de vie, au cœur des actions présentées, fait appel aux personnes aînées, aux personnes proches aidantes et aux familles, aux intervenants et aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi aux acteurs de tous les secteurs de la société qui sont amenés à y contribuer. La Fondation aimerait remercier la ministre Martine Biron, la ministre Sonia Bélanger, ainsi que le gouvernement du Québec pour leur engagement, pour leur soutien à l'inclusion et la bientraitance des personnes aînées et futurs aînés LGBTQI+, dans le cadre du plan d'action gouvernemental 2024-2029 « La fierté de vieillir », a déclaré Patrick Desmarais, président de l'organisme, à l'annonce de l'octroi de la subvention. Grâce à ce soutien, la Fondation Émergence entend réaliser la mesure 96 du plan d'action gouvernemental 2024-2029 « La fierté de vieillir », qui vise à promouvoir la bientraitance des personnes aînées LGBTQ+. Cette mesure consiste à informer et à sensibiliser les intervenants dans les milieux aînés ainsi que les personnes aînées sur les réalités vécues par les personnes aînées LGBTQ+, précise ce troisième plan d'action. Il s'agit de prévenir des situations de nature discriminatoire et de réduire l'incidence des cas de maltraitance qu'elles peuvent subir. Les aînés LGBTQ+, ont vécu une époque où leur identité était criminalisée, pathologisé et stigmatisé, explique Laurent Brault, directeur général de la Fondation. Aujourd'hui, ils et elles méritent des milieux où ils peuvent être pleinement eux-mêmes. Concrètement, sur les 5 prochaines années, la Fondation Émergence offrira 1. Une tournée de formation continue sur tout le territoire québécois, permettant de former plus de 10 000 intervenants, intervenantes et aînés LGBTQ+. 2. Le déploiement d'une stratégie d'adhésion des milieux aînés à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBTQ+, afin d'assurer des milieux et des services inclusifs. 3. La création d'un symposium national réunissant les autoristes clés du milieu des aînés pour échanger et innover ensemble. Nous avons hâte d'entreprendre ce grand chantier en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine, le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nos partenaires aînés et LGBTQ+, a déclaré Laurent Brault. Grâce à cet appui essentiel, nous pourrons poursuivre notre mission d'éducation et de sensibilisation pour que chaque personne puisse vieillir en toute dignité, dans le respect de son identité. Ensemble, faisons de la bientraitance une réalité pour toutes les générations. C'était « Pour que vieillir soit gai », soutenu dans le plan d'action du gouvernement du Québec. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 20 février 2025 dans le magazine Fugue.
Le 8 mars du Grand Ressac. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 7 mars 2025 dans La Presse. Il fut un temps pas si lointain où on se demandait naïvement « A-t-on encore besoin d'une journée internationale des droits des femmes? » Sérieux, mesdames, on n'est quand même plus en 1950. Du moins, pas au Québec. Le monde vous appartient. Vous pouvez être astronaute ou première ministre si ça vous chante. Vous avez droit à l'équité salariale. Vous êtes libre de votre corps et de vos choix. Dans la foulée du mouvement « Moi aussi », vous avez fait des gains importants. De quoi vous plaignez-vous encore? Allez, soyez reconnaissante. Souriez un peu et, s'il vous plaît, tassez-vous. Ça suffit, toutes ces balivernes woke de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est au tour des hommes, maintenant. Pourquoi n'auraient-ils pas droit à leur journée internationale, eux aussi? Pourquoi? J'avance quelques hypothèses. Peut-être parce que l'année et même l'époque leur appartient? Parce que l'égalité de droit ne garantit pas l'égalité de fait? Parce que la violence à l'égard des femmes est endémique, même dans une société progressiste comme la nôtre? Parce que les féminicides se suivent et se ressemblent? Parce que la marée de haine dans les réseaux sociaux ne cesse de monter, réduisant au silence des femmes avec l'assentiment des hommes les plus puissants du monde? Parce que, à travail égal, le salaire moyen des femmes est toujours inférieur à celui des hommes? On pourrait poursuivre l'énumération fait à l'appui encore longtemps. Mais que valent encore les faits dans notre merveilleux monde post-factuel où un agresseur sexuel reconnu peut être élu président des États-Unis et dire sans rire qu'il veut protéger les femmes? J'avance une estimation. Ça vaut l'équivalent d'une vie de femme sur le marché des broligarques de ce monde. C'est-à-dire pas très cher, même avec les droits de douane. Le patriarcat est de retour. Les hommes sont au pouvoir. À claironné sur X, Andrew Tate, misogyne en chef de la manosphère après la victoire de Donald Trump. Non, le patriarcat n'est pas de retour. Le fait est qu'il n'est jamais vraiment parti. C'est juste qu'il se déploie de manière plus violente et décomplexée, se dit-on en voyant Andrew Tate et son frère Tristan débarquer en Floride en dépit de poursuites pour traite d'êtres humains et viol en Roumanie et d'une demande d'extradition du Royaume-Uni. L'arrivée au pouvoir de Trump a libéré comme jamais auparavant une parole misogyne qui s'en prend ouvertement aux droits des femmes. Au lendemain de son élection, on a noté une recrudescence de commentaires en ligne encourageant le recul de droits durement acquis et faisant la promotion de la culture du viol. On a vu le slogan féministe « Mon corps, mon choix ». My body, my choice. Utilisé dès les années 1960, être détourné par le militant masculiniste et suprémaciste blanc Nick Fuentes. Ton corps, mon choix, pour toujours, a-t-il écrit sur X dans une publication misogyne devenue virale. Nous voilà donc plongés dans un violent ressac, pire encore que celui que décrivait Susan Faludi en 1991 dans Backlash. Dans cet essai féministe, récompensé par un prix Pulitzer, la journaliste américaine décryptait la guerre froide déclarée contre les femmes aux États-Unis à l'ère de Ronald Reagan. Une guerre insidieuse qui ne disait pas son nom, alors que les gains féministes des années 1970 avaient laissé place à un ressac. Derrière la victoire célébrée à grand bruit et la reconnaissance du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, un autre message se frayait un chemin. Vous avez enfin conquis la liberté et l'égalité, mais pour votre plus grand malheur. Il faut croire que l'on n'avait absolument rien vu, se dit-on, alors que les États-Unis sont plongés dans une époque dystopique où des filles ont moins de droits que leur grand-mère et des femmes meurent au bout de leur sang, faute de disposer du droit à un avortement. Un âge des ténèbres où la guerre contre les femmes prend aussi la forme d'une guerre contre le savoir, où les mots « femme », « minorité », « égalité », « biais », « systémique » ou « traumatisme » sont désormais vus comme des armes ennemies, bannies des projets scientifiques américains. Une ère où on cherche à effacer les femmes jusque dans le calendrier Google, qui a fait disparaître toute mention de la Journée internationale des droits des femmes. Un âge de pierre où, en revanche, les discours extrémistes d'un Andrew Tate, qui croit que les femmes devraient être soumises et ne pas avoir le droit de vote, sont plus populaires que jamais. Cette nouvelle guerre déclarée contre les femmes n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'un projet politique. Historiquement, l'extrême droite a toujours carburé à la misogynie, même si elle n'en a pas le monopole. Quand on se compare, on se console? Non, justement. L'ère n'est surtout pas à la consolation. Il n'y a pas de tsarine des frontières pour arrêter le trafic international des discours haineux et antiféministes de ce monde. Pas de vaccin contre la misogynie. Pas de marché boursier à la baisse pour la masculinité toxique. Pas de murs qui peuvent arrêter les vents violents qui balaient des droits et des principes que l'on croyait acquis. Ce qui se passe aux États-Unis ne reste pas aux États-Unis. Nous ne sommes à l'abri de rien. Les célèbres mots de Simone de Beauvoir n'ont jamais sonné aussi juste. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Je regarde le terrible ressac que vivent les femmes à la veille de ce sombre 8 mars, et je me dis, ce n'est pas d'une journée que nous avons besoin, mais d'un mouvement de résistance. C'était le 8 mars du Grand Ressac, un texte de Rima El-Khoury, paru le 7 mars 2025 dans La Presse.
Le temps de rêver. Un texte d'Émilie Nicolas paru le 27 février 2025 dans Le Devoir. Ces dernières semaines, plusieurs textes des pages idées cherchent à contribuer à un état des lieux, voire à sonner carrément l'alarme sur la déroute de la gauche au Québec et au Canada. Or, il me semble que la gauche, aussi largement définie possible, a plusieurs solutions tangibles à proposer face à la crise politique actuelle. Encore faut-il que ses leaders partisans en prennent la mesure. transport collectif. C'est Justin Trudeau qui a lancé le bal en annonçant le projet de train à grande vitesse, TGV, entre Québec et Toronto. Je ne sais pas si on a bien noté comment Trudeau a pris le temps, pendant son annonce, de présenter le TGV comme un débouché pour l'aluminium québécois, présentement menacé par les tarifs de Trump. Politiquement, c'était crucial. Le gouvernement a un rôle à jouer, en temps de crise, non seulement en offrant directement de l'aide aux entreprises ou aux travailleurs comme durant la pandémie, mais aussi en lançant de grands projets qui viennent stimuler l'activité économique intérieure de manière à éviter les mises à pied tant redoutées. Revenons à la gauche. Si un projet aussi ambitieux que le TGV semble opportun, c'est que la fenêtre pour présenter des projets de transport collectif d'envergure n'a jamais été aussi grande ouverte. S'en rend-on compte? Que devrait-on construire d'autre avec nos matériaux dont on ne saura bientôt plus quoi faire? D'autres trains, tramways et métros? Certes, mais aussi des écoles où l'air est respirable, des maisons d'hébergement pour femmes? Logement. Poursuivons dans la même logique. Les groupes qui se préoccupent du droit au logement déplorent le retrait progressif des gouvernements en habitation et réclament la mise en chantier de plus de logements hors marché. Et maintenant, Donald Trump menace nos exportations de bois d'œuvre et d'un ensemble de matériaux de construction vers les États-Unis. Que pourrait-on bien en faire? Vous voyez où je veux en venir? Il faut voir comment la menace de Washington peut engager nos gouvernements fédéral et provinciaux à contrer la crise du logement. Sécurité alimentaire. Les gens sont comme jamais à la recherche de produits locaux à l'épicerie. On dispose d'une expertise importante, particulièrement dans les milieux progressistes, pour tout ce qui touche la souveraineté et la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine, la protection des zones agricoles face aux banlieues, la résilience du secteur relativement au changement climatique, etc. C'est le temps de remettre ces idées de l'avant et d'y intéresser un public plus vaste. Aide internationale. Les États-Unis se désengagent de l'aide internationale, ce qui crée une crise de financement pour un ensemble de programmes humanitaires partout dans le monde. Le changement de cap radical donne une occasion en or à des pays comme la Chine et la Russie d'augmenter leur influence internationale. Et nous, là-dedans, une fois qu'on a décrié Washington, on fait quoi? Le Canada ne pourrait-il pas prendre un peu plus de place sur la scène internationale en coordination avec des États qui soutiennent des valeurs humanistes pour remplir le vide laissé par les Américains? Ne serait-ce pas là un élément d'une stratégie géopolitique pour le pays? Une occasion de s'autonomiser par rapport à Washington? Commerce et alliances. Ça a été très long avant que notre classe politique donne des signes de compréhension que la solution à Donald Trump ne passait pas que par la multiplication des voyages à Washington, mais aussi par la construction de contre-pouvoirs internationaux avec les autres acteurs désormais menacés par les États-Unis. Nos dirigeants s'intéressent à l'Europe, qui, on le voit bien avec l'Ukraine, est tout aussi menacée par le Trumpisme. Toutefois, nos relations avec le Mexique restent relativement froides, et le Brésil de Lula, qui tient pourtant tête à Trump, à son ex-président Jair Bolsonaro, très proche idéologiquement des Trumpistes, à Elon Musk et même à Mark Zuckerberg, ne semble pas faire partie de nos priorités stratégiques. Que dire du reste de la planète, presque complètement ignorée depuis le début de l'année? Alors que le président américain ne menace rien de moins que l'ordre mondial, on se comporte comme si l'on pouvait gagner une partie d'échecs en ne surveillant que le roi et un ou deux pions. Ces angles morts, non, ce vieux snobisme politique, représente un réel danger. L'Europe elle-même est instable et l'extrême droite y fait des gains. Il est urgent de diversifier nos alliances, l'Europe seule ne pouvant être la solution. Or, les relations Nord-Sud, la coopération internationale, notamment avec l'Amérique latine, font justement partie des champs d'expertise auxquels les progressistes, particulièrement au Québec, peuvent grandement contribuer. Peuples autochtones. Les rapprochements entre les États-Unis et la Russie replacent la question de la souveraineté de l'Arctique au rang des priorités du jour et on se remet à proposer des méga-projets d'infrastructures énergétiques, notamment Est-Ouest. L'urgence politique que l'on traverse peut servir de prétexte au recul de l'engagement des gouvernements envers les peuples autochtones ou être un tremplin pour la réconciliation et l'autodétermination des peuples. L'avenir dépend de la vision des gens qui se mêleront de ces grands dossiers. Je pourrais continuer ainsi longtemps. La vérité, c'est qu'il y a un changement de posture, voire de disposition psychologique, à faire du côté de la gauche. Il ne faut pas que s'assurer que nos acquis ne reculent pas pendant que les décideurs se penchent sur la crise sécuritaire, mais présenter certaines de nos idées comme des réponses à cette crise qui préoccupe la population. C'est le temps, plus que jamais, de proposer les proverbiaux grands projets de société. Alors qu'on oppose souvent la gauche, rêveuse, aux pragmatiques, la crise actuelle fait passer certains aspects de ce qui était hier encore perçu comme trop ambitieux du côté du pragmatisme. S'en rend-on compte? C'était « Le temps de rêver », un texte d'Émilie Nicolas paru le 27 février 2025 dans Le Devoir.
Votre tiroir. Un texte de Mario Girard paru le 8 mars 2025 dans La Presse. Ma chronique précédente sur les tiroirs de débarras, que nous sommes nombreux à avoir dans la maison, vous a visiblement plu. Quel plaisir j'ai eu à vous lire et à découvrir les noms que vous utilisez pour désigner cet endroit où cohabite dans un formidable éclectisme une foule d'objets. Tiroir à tracas, une expression très répandue. Tiroir à cossin, un classique. Tiroir à brimborion, un mot magnifique qui désigne des objets de peu de valeur. Tiroir à cochonnerie, un autre classique québécois. Tiroir à crisser, rien à ajouter. Tiroir à fouillouse, sans doute une déformation de full use. Tiroir à tout mettre, une lectrice a longtemps pensé que c'était « tout mettre ». Le trou noir, expression qui ne manque pas de poésie. Tiroir des fous, j'avoue que j'ai succombé. Je vous confiais que mes parents appelaient ça le tiroir à drigaille, un mot d'origine bretonne qui signifie un bric-à-brac sans valeur. Plusieurs lecteurs et lectrices, qui se sont aussi appropriés ce mot, étaient heureux de découvrir qu'il n'est pas utilisé sans raison. La maman de Julie avait recours à cette expression. Aujourd'hui, les petits-enfants l'utilisent à leur tour. Je n'aurais jamais penser que ce mot existait vraiment, me dit pour sa part Francine. Chez nous, il se trouvait dans la cuisine à côté de la cuisinière. Que de drigailles et de petits trésors il contenait. J'en ris encore rien que d'y penser. Je disais que le tiroir de débarras prend forme au fil du temps et que son emplacement et son contenu sont choisis aléatoirement. Il semble que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Jean, qui est ébéniste, me confie qu'au moment d'élaborer des plans d'armoires de cuisine pour ses clients, certains identifient un endroit très précis pour le fameux tiroir de débarras. Le tiroir de débarras a droit à une place de choix. Jean a parfaitement raison, car Suzanne m'écrit ceci. Je vous informe que je suis à planifier l'emplacement dans notre cuisine à rénover de ce tiroir d'objets esselés et utiles à leurs heures. Sinon, ce sont les rebords de fenêtres ou les comptoirs qui écopent, et j'ai bien envie de trouver rapidement mes piles AAA et mes stylos. Ma description des objets qu'on met dans ces tirois fut plutôt juste. Ruban adhésif, ficelle, tournevis, ruban à mesurer, facture, couteau suisse, pile, bloc-notes de courtiers immobiliers, lampe de poche. On dirait bien que notre sens du dépannage se ressemble beaucoup. « Es-tu rentré chez moi de façon illégale ?» me demande Marc à la blague. « Êtes-vous venu chez moi ?» renchérit Louis. J'ai décrit ces tiroirs comme une sorte d'extension à notre vie. Je ne suis pas le seul à penser cela. Christine Marié, qui vit en France, m'a fait part d'un projet d'investigation poétique absolument fascinant qu'elle a mené avec d'autres personnes sur le thème des tiroirs. Ça s'appelle « Très petit territoire, tiroir ». Elle a fait parvenir un questionnaire à plusieurs personnes et leur a demandé de photographier un tiroir de leur demeure. Elle a ensuite rédigé de courts textes de fiction pour accompagner ces territoires intimes. Dans un tiroir, tant d'histoires peuvent s'imaginer, m'écrit-elle. Un livre d'art tiré à 200 exemplaires a été publié. Le projet continue de vivre dans l'univers numérique, notamment sur Instagram. Je disais que les tiroirs de débarras nous permettent de cultiver un peu de désordre dans un monde où l'ordre est devenu une règle, sinon une hygiène de vie. Un lecteur, un comédien connu fort sympathique dont je vais taire le nom, m'a parlé de son obsession pour le rangement. « Ben oui, j'ai un côté maniaque, reconnaît-il. » Bref, il n'est pas question pour lui d'avoir un tiroir de débarras. Chaque chose a une place chez lui. En revanche, certains lecteurs ne se gênent pas pour me dire qu'ils ont plusieurs tiroirs ou tablettes de débarras à la maison. Annie a pris la peine de photographier ses trois tiroirs de débarras. Ils sont à l'image de ce qui est rangé dans ma tête et me servent au cas où à attiser ma créativité, me dit-elle avant d'ajouter que le troisième tiroir attend depuis quelques années d'être réparé. Existe-t-il une association de défense pour les tiroirs de débarras maltraités? Si oui, il faut lui demander d'intervenir au plus tôt chez Annie. En terminant, comme tout le monde, les chroniqueurs ont parfois besoin d'être moins sérieux, moins lourds. Et quand on se lance dans un sujet plus léger, on se demande parfois comment cela sera reçu. Merci de m'avoir dit que je faisais œuvre utile en cette période angoissante pour tous. Et puis, dites-vous que le temps que nous mettons à chercher dans notre tiroir le gugus, le cossin, la patente, la cochonnerie, le brimborion ou la drigaille dont on a besoin pour régler un problème, c'est du temps qu'on ne consacre pas aux grandes inquiétudes planétaires. C'était « Votre tiroir », un texte de Mario Girard paru le 8 mars 2025 dans La Presse.